먹었어?
Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, nous voilà de retour dans le Corée Voyage Show avec déjà le 10e épisode de notre podcast. Et pour marquer le coup, on vous envoie du lourd, du très lourd, avec un voyage musical envoûtant dans une interview d'exception qui va vous faire planer. Jeanne et Julien partent ensuite pour la ville de Cheonju, lieu de tradition et de musique. Sachez tout d'abord que je souhaite par avance vous adresser mes excuses pour la qualité acoustique de l'interview. Tels sont les aléas de la distance. Mais arrêtons les palabres et place au son. D'ailleurs, montez le volume à vos casques et écouteurs. Délectation garantie. Saxophoniste, flûtiste, compositeur, producteur et j'en passe, tu es un ambassadeur de la sono mondiale, en constante recherche de nouveaux sons venus des quatre coins de la planète. Ta musique est un véritable patchwork, allant de l'Afrique à l'Asie, en passant par les Balkans. Les Balkans d'ailleurs, où tu avais fait une tournée à l'époque avec ton groupe Freaks. On retrouvait déjà ce folklore avec l'utilisation d'instruments traditionnels, comme par exemple le kaval, qui est une flûte traditionnelle des Balkans. Monsieur de la Sayette, c'est un très grand honneur et ça me fait très 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 plaisir de t'avoir ici. Et déjà un immense merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors, comment décrirais-tu, toi, ta musique ?
Ah, je n'aime pas trop la décrire, en fait. Je préfère que ce soit les autres qui le fassent pour moi, comme tu viens de faire. Mais et puis bon, ça fait une paire d'années que je fais de la musique maintenant, donc ça évolue aussi, hein. Mais moi j'ai une formation de jazz au départ, mais vite je me suis intéressé au jazz qui se mélangeait avec d'autres musiques et notamment des musiques du monde, et c'est quelque chose qui est resté dans ce que j'aime faire. Donc on va dire que j'évolue dans un spectre assez large qui sont les musiques, des mélanges de musique du monde, de jazz, de musique actuelle, mais j'ai aussi joué dans des groupes de rock, dans des groupes de reggae. Je préfère être éclectique et être ouvert, et peut-être que dans 6 mois je ferai un disque de thrash metal ou de classique, j'en sais rien. Je préfère me dire que c'est toujours ouvert et puis voilà, me surprendre moi-même et puis faire des trucs assez différents.
Une de tes premières sources d'inspiration, c'est Ornette Coleman, grand saxophoniste, précurseur du free jazz et de la funk. Et c'est en écoutant Ornette Coleman que tu décides de devenir saxophoniste.
Alors ça, c'est un joli raccourci Café, en fait, j'ai un très bon copain qui m'a fait mon site web il n'y a pas longtemps et il a gentiment aussi écrit une biographie et ça a été sa façon de résumer un peu mon parcours. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais c'est vrai qu'en gros, je me suis intéressé au jazz dans mes jeunes années, enfin après, je sais pas, vers 12-13 ans, et que j'ai aussi tout de suite eu un goût pour le free jazz ou le jazz un peu libre, et notamment Ornette Coleman. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé la liberté qu'il avait dans sa musique, et que c'est quelque chose qui me reste.
Quand tu dis raccourci, en fait, c'est plus compliqué que ça, hein.
J'aurais du mal à j'ai pas un souvenir précis qui fait que j'ai absolument voulu faire du jazz, mais c'est venu petit à petit avec l'instrument aussi. Je voulais faire du saxophone, qui était un instrument dont j'aimais le son et le look aussi, parce que quand on a 12 ans, on écoute de la musique, mais aussi on est aussi dans un des trucs de d'enfant, de vouloir avoir un instrument sexy et doré qui brille. Parfois, on choisit un instrument pour des raisons un peu futiles, hein. Et je me suis intéressé petit à petit au jazz, je me suis mis à écouter Coltrane aussi, bien sûr, Charlie Parker, Dexter Gordon. Donc ça, bon, c'est quand je dis que c'est un raccourci, ça n'a pas été Ornette Coleman tout d'un coup, oui. Le coup de foudre.
Alors, oui, mais tu grundinke jehons, Fit zum Äthiopia wit Ein Mama di Mama Wo ist er in Äthiopia Kon jit in ein Bar Tramech wo de fit Uchipa de Baba.
Après avoir monté les groupes Human Beings et Freaks, entre autres, hein, parce qu'entre-temps, je pense qu'il y en a eu d'autres, tu crées Akale Wube, qui signifie beauté de l'âme en amharique, en 2009. Un quintet de jazz parisien, ou plutôt d'ethio jazz, d'ethio groove, basé sur le funk jazz éthiopien des années 60-70. Alors, vous faites une tournée mondiale, hein, plus de 200 concerts, des collaborations musicales avec des grands noms comme Manu Dibango, Mahmoud Ahmed ou encore Girma Beyene lors de l'album Mistake on Purpose qui est sorti en 2017. Donc est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi et comment tu as décidé d'entreprendre cette aventure musicale et pourquoi en particulier avoir choisi l'Éthiopie?
Eh ben écoute, alors déjà c'est un groupe que j'ai monté mais avec d'autres collègues, hein. Donc c'est un groupe, on se revendique comme collectif, hein. Il n'y a pas de leader, même si je me suis beaucoup investi dedans, mais mes collègues aussi, hein. Et on est venu à la musique éthiopienne parce que c'est une musique qui a été redécouverte par un Français, Francis Falsetto, et qui s'est attaché à ressortir, fouiner, retrouver les disques de l'époque et les ressortir sur une très belle collection, très bien documentée, sur un label français. Donc c'est la série Éthiopique chez Buda Musique. Et donc en tant que Français, on était assez bien placé pour découvrir cette musique parce qu'elle a été redécouverte. Donc chez nous. Ensuite, ça a essaimé dans le monde entier. Maintenant, c'est connu mondialement cette série. Enfin, je crois ça fait 25 ans que ça a commencé maintenant. Et donc, bah, tout simplement, je l'ai découvert comme d'autres de mes collègues musiciens en écoutant les disques qui sortaient régulièrement sur cette série. Et au fur et à mesure que les disques sortaient, à peu près un par an, c'était toujours des découvertes et des chocs musicaux parce que c'est une musique d'une richesse extraordinaire. Et on n'a pas fini d'en découvrir tous les jours. Et donc, et ben ouais, on l'a découvert tout simplement en écoutant les disques. Et puis après, ça a été l'idée de Paul, le trompettiste, qui un jour s'est dit, j'adore cette musique et pourquoi j'essaierais pas de la rejouer. Quand j'ai appris qu'il avait eu cette idée, j'ai trouvé que c'était une idée géniale et que c'était évident qu'on allait se régaler à rejouer cette musique et puis après à aller un peu plus loin, c'est-à-dire recréer à partir de cette musique, créer notre propre lecture et version de cette musique. Et puis bah on s'est retrouvés ensemble, on a appelé d'autres potes musiciens et puis on a créé ce groupe. Et effectivement, ça s'est révélé être une idée qui était évidente et qui était quelque chose de très jouissif à faire. Et du coup, le groupe a assez vite bien marché et on effectivement s'est retrouvé à faire des belles collaborations, des beaux concerts dans le monde entier et ouais des tournées, des rencontres et ça continue même si maintenant là, ça fait presque un an qu'on est au point mort à cause des circonstances, mais on espère bien reprendre de plus belle quand on aura fini avec ce virus à la con.
J'avance, hein, on arrive en 2016, tu sors un album solo intitulé Maputo Queens. Je crois que tu es aussi un fan d'afro-jazz et on retrouve encore une fois des instruments traditionnels dans ta musique puisque tu jongles entre kalimba, qui est une sorte de xylophone d'Afrique subsaharienne, hein, et le kayagum, qui est une sitar coréenne. Alors, déjà, comment tu connais le kayagum, cet instrument à cordes traditionnel coréen?
Là, on va arriver sur le dossier coréen, mais donc j'ai des affinités, beaucoup d'affinités avec la Corée. Et en tant que musicien, évidemment, je me suis beaucoup intéressé à la musique coréenne et donc aux instruments. Hein, donc, je connais à peu près, je connais les instruments utilisés en musique traditionnelle coréenne. Donc, le kayagum, entre autres. Hein, mais c'est vrai que j'en ai ramené un d'un voyage en Corée et j'en joue très peu à l'occasion dans certains prods que je fais un tout petit peu, mais je suis pas un joueur de kayagum, hein, je suis loin de maîtriser. Il y a d'autres instruments traditionnels sur les flûtes. Je me suis beaucoup exercé sur différentes flûtes de différents pays, mais le kayagum, ça reste. Je m'amuse beaucoup à en jouer, mais je suis vraiment pas. Je suis un très très mauvais instrumentiste sur le kayagum. Hein.
Pour revenir sur la flûte, hein, j'ai vu une vidéo d'un concert où tu joues Mechenyu, qui est un morceau tiré de l'album Akale Ubube. Et là, il me semble, si ça se trouve, je me trompe, tu y joues de la flûte traditionnelle coréenne, je crois, hein, Taegeum peut-être, Chungeum ou Sogeum.
Non, alors c'est pas. Non, c'est une flûte. Alors dans Akale Ubube, non, je joue pas de flûte coréenne. Ça doit être une flûte bansuri, c'est une flûte de musique traditionnelle indienne en bambou. Mais effectivement, c'est des flûtes traversières et qui ont des cousinages avec les flûtes, avec le daegeum ou d'autres plus petites flûtes coréennes. Tout ça, c'est des, ouais, ces instruments ont tous un cousinage. Mais en l'occurrence, avec Akale Ubube, ça m'amusait de jouer de la musique vraiment éthiopienne avec notamment des flûtes indiennes, ouais, dans les mélanges étranges.
Parler de tes affinités avec la Corée. Nous, on s'est rencontrés la première fois à Paris au début des années 2000, hein, si je me souviens bien. Mais déjà à l'époque, il me semble que tu avais déjà eu l'occasion de voyager en Corée. Hein.
Oui, mon premier voyage en Corée, ouais, ça remonte à Bah c'est ouais, c'est autour des de ouais, c'est en 2000 je crois. Hein. Mon premier voyage en Corée où j'ai été jouer avec un groupe. J'ai beaucoup aimé la Corée à l'occasion de ce premier voyage et puis j'ai rencontré aussi voilà, j'aime pas trop parler de ma vie privée mais j'ai rencontré ma femme qui est
Oui.
coréenne donc. Et ce qui fait que c'est devenu par ces liens de famille, la Corée c'est devenu un peu mon deuxième pays, même si je parle très mal coréen malheureusement. C'est un pays où je retourne souvent, où j'ai pris mes habitudes, où j'ai beaucoup d'amis, où j'ai de la famille et que j'apprends à découvrir toujours et où j'aime beaucoup retourner et où j'espère vivre aussi. Là, ça a toujours été compliqué. J'ai jamais pu y vivre très longtemps, mais ça reste dans mon idée. Donc je me suis enrichi vraiment d'un deuxième pays, quoi, pays d'adoption. C'est une grande richesse, quoi.
Et donc tu dis qu'en 2000, ton premier voyage en Corée, c'était dans le cadre d'un concert, hein?
Ouais, j'étais parti jouer avec une fanfare. Et on était 13 ou 14 musiciens et on avait des concerts. Et en plus, comme c'était une fanfare, on pouvait jouer n'importe où. Donc on jouait dans la rue et on a Seoul, à Busan et dans d'autres endroits. On jouait dans la rue. Et c'était génial parce que c'était les Coréens avaient pas trop l'habitude de ça à l'époque. Et on était super bien accueillis. Ça a provoqué des rencontres assez chouettes. Donc j'ai un très très bon souvenir de ce premier séjour.
상도 타관, 물도 타관, 인정사정 모두 타관.
구름 따라 나는 가니, 바람 따라 나는 가니, 인생은 나그네라 군가 말했던가.
Entre-temps, tu crées un autre groupe, Peshy Bang, toujours basé sur un quintet de jazz. Cette fois-ci, tu t'attaques au chanteur de pop coréen, Bae-ho, qu'on qualifiait en Corée d'Elvis de la trot dans les années 60. Un mix donc de trot, alors la trot c'est la musique, un type de musique populaire coréen, et de variété occidentale. Bae-ho, il est mort à l'âge de 29 ans de néphrite, c'est une inflammation du rein, après avoir été acteur et sorti plus de 300 chansons. Malgré tout, peu de Coréens s'en souviennent. Quelle mouche t'as piqué pour aller choisir la musique de ce chanteur et de la réinterpréter à la sauce de la saillette?
Eh ben écoute, ça s'est fait parce que donc j'étais à une époque où j'écoutais beaucoup de musique coréenne, hein, et j'avais notamment un ancien prof de ma femme qui est un mélomane. Et très grand connaisseur de plein de musique de Corée, et donc il me faisait des compiles, il m'envoyait des disques, et quand je revenais de Corée, je passais chez lui, et je revenais avec des piles de disques. Et dans tout ce qu'il m'a fait écouter, il y avait un coffret de chansons de BO, d'une soixantaine de chansons, et puis je l'ai écouté de plus en plus, et en fait, sur ces 60 chansons, il y en avait 10 ou 15 que je trouvais vraiment magnifiques. Et donc je me suis intéressé un peu plus à ce monsieur. Et qui effectivement était une star en Corée dans les années 60. Et puis c'était un peu aussi les prémices de la K-pop dans le sens où ça devenait une petite industrie, c'est-à-dire qu'il avait des gens qui lui composaient sa musique, des paroliers, il sortait énormément de morceaux parce qu'il y avait beaucoup de succès. Donc tous les mois presque il y avait un disque. Alors il y avait un petit côté industriel comme la K-pop d'aujourd'hui, mais je préfère la K-pop des années 60 que celle d'aujourd'hui que j'aime pas trop. Et je trouvais que c'était une industrie, mais mignonne, quoi, avec quand même encore beaucoup de poésie et de fragilité, enfin, voilà, qui m'a touché. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, voilà, je suis de plus en plus coréen, faudrait que je fasse un projet autour de la musique coréenne. Et puis quand j'écoutais des musiques traditionnelles, j'aimais beaucoup, mais ça me semblait trop éloigné ou très dur à adapter. Et je me suis dit, pourquoi on ne prendrait pas les chansons de ce monsieur? Et puis comme on a l'habitude de faire en jazz avec les standards et les chansons, de reprendre ces chansons de façon jazz. Et donc j'ai réuni des musiciens pour monter ce projet et on a fait un disque. Qui a eu des bonnes chroniques, hein, c'était chouette, on a eu un bel accueil, et donc on reprend des chansons. Alors j'ai écouté des centaines de chansons de BO, on a sélectionné avec les copains aussi qui m'ont aidé, et on a adapté une dizaine de chansons pour les mettre sur ce disque. Et voilà, alors ça a été drôle parce qu'après je me suis rendu compte. Je me suis dit, c'est bien, les Coréens vont adorer, ils vont être quand même super étonnés de voir des Français qui font cette musique. Et puis j'ai découvert que, en fait, Bého était tombé dans l'oubli, hein, en Corée. Donc ça a été assez surprenant de me rendre compte qu'en fait, les Coréens, enfin les jeunes Coréens, ne connaissaient pas leur chanteur des années 60 et 70, en fait, contrairement à la France, où il y a un peu un culte des Brel, Brassens, Ferré et de tous ces chanteurs du passé, on n'a pas ça en Corée. Et donc, ce projet-là que j'ai eu me paraissait d'autant plus étrange aux Coréens que la plupart connaissaient même pas ce chanteur.
Justement, je me demandais, tu sais, quand tu es parti en tournée, parce que vous avez joué aussi
Oui.
en Corée, quelle a été la réaction des Coréens? Ils ont dû se dire, mais c'est quoi ces extraterrestres? Ils jouent un
Ouais.
truc, on connaît même pas, quoi.
Ouais, bah, c'était drôle. C'était effectivement, on a eu un très bon accueil et puis des réactions toujours positives. Parfois des réactions presque embarrassées parce que pour l'anecdote, il y a eu un documentaire sur BO sur KBS et du coup j'ai servi de fil rouge au documentaire. Ils sont partis sur le, ils voulaient faire un documentaire sur BO, puis ils m'ont interviewé, puis je reviens tout au long du documentaire. Et c'est un documentaire qui avait été commandé par le chef de KBS, qui est un monsieur âgé qui connaissait BO. Et le numéro 2 de la chaîne de télé connaissait BO. Et quand il a vu ce documentaire, il a dit, mais c'est la honte qu'un Français me fasse la leçon. Alors, ce chanteur, qui est pourtant, qui fait partie du patrimoine de la Corée. Donc parfois, on avait des réactions de gens un petit peu embarrassés qui se disaient, mais nous, on connaît pas et eux connaissent, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais on a eu un bon accueil et puis on a eu aussi un accueil rigolo des fans de BO parce qu'il y a un fan club, on a rencontré son sosie, ils sont venus à des concerts et là on avait tous les Ajushi, les Ajuma, on chantait avec nous les chansons et c'était très touchant et donc c'était très marrant de réunir, rassembler ce côté populaire puis des gens qui étaient plus dans l'écoute de musique un peu pointue ou plus jazz quoi. C'était un bon melting pot.
Et puis, bah, toi, tu connaissais déjà la Corée, hein, mais peut-être qu'il y avait des membres de ton groupe qui venaient en Corée pour la première fois.
Eh ben, ils ont tous découvert la Corée pour la première fois en fait.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, et c'était bien parce que du coup le projet pour moi il était concret dans ma tête parce que je connaissais bien la Corée, mais pour eux c'était quand même un peu abstrait de jouer la musique de ce monsieur coréen et d'aller en Corée ça leur a fait du bien. Enfin, ils étaient très contents enfin d'être en Corée et ils ont adoré l'accueil et puis comme on est tous des grands mangeurs aussi ils ont adoré la nourriture coréenne. Moi je suis un grand fan de nourriture coréenne et ils ont tous adhéré à fond. Et on attend qu'une chose, ils attendent tous une chose, c'est d'y retourner. Voilà, c'était une super expérience pour tout le monde.
Thank you.
Et puis moi, je me demandais quelles étaient tes sources d'inspiration en termes de musique traditionnelle coréenne, car tu as l'habitude d'intégrer ces sons dans ta musique.
J'ai ramené pas mal de vinyles de Corée. Quand j'y vais, j'aime bien les... J'ai fait beaucoup de vide grenier, de brocante à une époque, et je ramenais des vinyles, et j'ai pas mal de vinyles de chansons folk, donc de, on va dire, de musique traditionnelle populaire, beaucoup de chants mignons notamment, mais qui sont quand même modernisés, mais à la façon des années 60. Et ça, je trouve que c'est une super source d'inspiration, parce que les arrangements de l'époque sont vraiment jolis, et y a des super trucs. Donc ça, j'écoute ça pas mal. Et puis après, en musique traditionnelle, j'écoute pas mal de trucs, mais je manque d'un séjour. Il faut vraiment que je retourne en Corée, que je passe du temps en fait avec des musiciens, parce que la musique traditionnelle coréenne, c'est très vaste et c'est très riche. Et à distance, sans prof ou sans copain musicien pour un peu me guider, je me perds dedans un peu parfois. Donc j'écoute beaucoup de chants mignots, j'écoute du sanjo, j'écoute du kayagum, j'écoute pas mal de choses, mais du samul nori aussi. J'ai eu l'occasion aussi d'aller en Corée faire des musiques de spectacle deux fois et de collaborer avec des percussionnistes de samul nori pour créer des musiques de spectacle. Donc ça, je connais un peu aussi cet univers. Et voilà, mais je suis encore vraiment dans l'apprentissage. Je découvre peu à peu ces musiques-là. Et puis, je prétendrai pas en jouer moi-même. Je préfère œuvrer pour faire des mélanges intelligents de moi, ce que je peux faire, et de ces musiques-là. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien, et ce qui a l'air intéressant, et ce qui est une piste que je trouve assez excitante, c'est le mélange avec moi, ce que j'ai de musique d'Afrique. Parce qu'en fait, il y a des points communs étonnants, par exemple, entre la musique éthiopienne et la musique coréenne. Et donc là, il y a des trucs à fouiller et à créer, qui sont assez excitants.
Tout à l'heure, on parlait de flûte. Bon, même si je ne suis pas un grand spécialiste de la flûte, hein, j'ai confondu une flûte coréenne, chungum ou sogum, avec une flûte indienne. Mais ça aurait pu très bien être, je ne sais pas moi, peut-être une flûte d'Afrique, une flûte éthiopienne.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Bon, je n'ai pas rentré dans la technique, mais sur les rythmes, il y a beaucoup de rythmes 6-8, comme on dit, qui sont très fréquents en Corée et... en Afrique, et puis en Afrique de l'Est notamment, et puis tout l'univers des gammes pentatoniques, et là on est dans les mélodies et tout ça, il y a des similitudes incroyables entre l'Asie et l'Afrique.
Pentatonique, mais c'est quoi ça? Désolé, hein, moi je suis pas le pro du solfège.
Alors oui, pardon, pentatonique en fait c'est des gammes à 5 notes. Contrairement à nos gammes occidentales qui sont basées sur cette note et qui sont très très fréquentes, très utilisées en Afrique et en Asie et ce qui crée ensuite des similitudes de mélodies quoi.
Donc pourquoi pas imaginer une collaboration entre plusieurs musiciens en mélangeant des musiques traditionnelles éthiopiennes, coréennes avec cette touche toujours jazzy, hein.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et donc Pechiban, hein, sort un nouvel album l'année prochaine. Hein.
Alors écoute, c'est en préparation. Après, il faut être assez prudent parce que les circonstances sanitaires qui font que c'est très compliqué quand même. Donc je peux pas du tout m'engager sur un agenda. Hein. Je sais pas du tout quand ça pourra se faire. D'autant que c'est une collaboration avec des Coréens cette fois-ci. Donc il y a ce projet d'album. J'espère qu'il se fera, mais on y va pas à pas et je peux pas encore promettre grand-chose.
Et cette fois-ci, tu as choisi de t'associer au collectif Hip Kwason, un groupe de 4 jeunes musiciens, chanteurs coréens, qui ont un style très atypique hein, en jouant entre instruments et chants traditionnels modernes. Là encore, comment es-tu arrivé à les dénicher?
Alors écoute, alors au départ, enfin eux, ils se revendiquent comme un collectif de pansori. Hein. Ils tiennent à ce qu'on dise que ils travaillent autour du pansori. Donc pour ceux qui le connaissent pas, hein, c'est une forme d'opéra, on va dire l'opéra coréen, mais un peu minimaliste, avec un chanteur, acteur et un percussionniste qui l'accompagne, qui est une musique géniale et qui mélange théâtre et performance et musique. Hein. Et eux, ils sont là-dedans avec pour aider un peu de moderniser les traditions du pansori et ils sont du coup ouverts sur des collaborations comme celle qu'on est en train de démarrer. Et je les ai trouvés, j'ai pas mal cherché parce que après ce premier album de Bechibang, je trouvais que ça aurait plus de sens de continuer J'avais envie de continuer sur la musique coréenne, mais de arrêter avec BO, parce qu'on fera toujours des concerts avec ces chansons-là, mais voilà, c'était une étape qui était franchie, et je voulais aller continuer avec ce groupe, mais sur d'autres formes de musique coréenne, et du coup j'avais envie d'aller dans les musiques traditionnelles, que j'adore. Et donc j'ai commencé à prospecter pour chercher des musiciens, et notamment des chanteurs, parce que nous on n'a pas de chanteurs dans le quintet, je trouve que l'apport du chant est énorme. Et donc, ben, par mon réseau, par les gens que je connais, j'ai prospecté un peu et je suis tombé sur eux de fil en aiguille, de bouche à oreille. On m'a conseillé ce groupe, sachant que voilà, ils ont beaucoup de talent, qu'ils sont jeunes et puis ouverts, vraiment important, ouverts, voilà, à des collaborations ou des choses qui pourraient paraître étranges pour d'autres. Ils devaient venir faire des concerts et une création avec nous en France au mois de mai dernier, donc ça a été annulé et depuis on essaie de travailler à distance pour préparer une collaboration. Et du coup, on a fait un enregistrement, on a un morceau qui est sorti. D'un chant traditionnel, un minyo que j'ai arrangé et qu'on a joué tous ensemble en s'envoyant, nous en faisant notre partie à Paris et eux en ajoutant le chant enregistré à Séoul.
Ok, bon, là tu parles du morceau Changi Taryong, hein?
Voilà, c'est ça, ouais, qu'on vient de faire là, qu'on vient de finir.
Parler de tes projets, on a évoqué un éventuel nouvel album. Bon, même si là c'est compliqué hein, de se projeter.
Ouais, c'est difficile, ouais.
Mais admettons, espérons que tout rentre dans l'ordre, qu'est-ce que tu prévois pour la suite?
Bah écoute, là les projets c'est assez, c'est dans les clous, hein. C'est de moi, c'est bon de continuer avec Béchibang, avec Akale Ube. Donc on va attendre que ça finisse ce bazar et puis on va reprendre sur des. On était sur un nouvel album. Enfin, on avait plusieurs projets qui étaient sur le point de sortir. Donc tout ça va reprendre avec Akale Ube, hein, de continuer notre chemin avec des nouveaux disques et des nouvelles collaborations. Béchibang, le projet, ben on a dit c'est cet album. Après, dans l'idéal, mais c'est pas à pas parce que c'est quand même compliqué les collaborations avec un pays aussi lointain. Mais j'aimerais faire des concerts avec le chanteur de Ib Kwason avec qui on a enregistré le single qui s'appelle Shin Seung-tae. J'aimerais qu'on puisse trouver une façon de faire des concerts et des tournées avec lui. Voilà, avec le répertoire du disque qu'on aurait fait. Ça, c'est voilà le projet un peu plus loin, mais voilà, j'aimerais bien que Béchibang joue beaucoup avec un chanteur coréen. Voilà, je pense que c'est l'avenir de Béchibang parce qu'on a vu nos limites aussi. Malheureusement, en termes de pur business, c'était compliqué d'être un groupe de Français qui joue de la musique coréenne. Juste un exemple, il y a eu une année France-Corée il y a 2-3 ans. Je me suis dit, c'est génial, on va être les rois du monde, on est le seul groupe français qui fait de la musique coréenne. Et ben on s'est pris que des portes, ça a été une catastrophe. Parce que quand je contactais la Corée, on nous disait, ben super, mais vous êtes français, nous on veut que vous nous jouiez de la musique française, on s'en fout que vous nous jouiez de la musique coréenne. Et puis quand on voulait jouer en France, on nous disait, ben ouais, vous jouez de la musique coréenne, mais nous on veut des musiciens coréens. Ça a été compliqué et on s'est rendu compte que même si les gens adorent le disque, c'est sur le papier, c'est français qui jouent de la musique coréenne, c'est pas facile à vendre, c'est un peu bizarrement perçu. Et que donc l'avenir de Béchibang, ça passera par une belle collaboration avec des chanteurs coréens. Et que physiquement, sur scène, on voit voilà des Coréens, des Français qui jouent quelque chose ensemble en prenant leurs pieds et que ce sera beaucoup plus lisible pour le public.
Oui, comme tu l'as déjà dit, hein, rajouter cet élément vocal, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Qui plus est, si les Coréens. J'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait hein, dans Ib Kwason, et c'est vrai que c'est un chanteur qui maîtrise vraiment le pansori, le chant traditionnel, avec une touche toujours contemporaine.
Ouais, c'est un super chanteur. Moi, hyper content de cette rencontre qu'on a faite. Donc j'espère voilà qu'on va pouvoir faire des choses avec lui. Et puis sinon dans les projets aussi, j'ai profité un peu du coup de la période un peu scotché à la maison pour lancer un label hein, qui s'appelle Mujo Records. Je pense que je vais développer ça aussi, ça va permettre de sortir de la musique que je fais moi ou mes collègues hein, de façon assez légère et rapide. Sans trop de complications, si quelqu'un a un album ou un single qui est prêt, de le sortir rapidement et d'avoir un outil un peu léger, maniable, voilà, pour sortir de la musique. Donc ça, c'est aussi dans les projets, c'est de développer ce label.
Alors pour conclure le monde de la fin, si tu avais des conseils à donner en termes de créativité à des jeunes musiciens qui se lanceraient en jazz, dans le free jazz, qu'est-ce que tu leur dirais ? Comment toi, tu arrives à aller chercher tes sources d'inspiration pour créer ta musique ?
Bah, je pense qu'il faut être un music lover, comme dirait l'autre. Faut aimer écouter de la musique aussi, être curieux, écouter le plus de choses possibles. Hein. Après, je me fais pas trop de soucis sur la jeune génération parce que je vois le niveau qu'ils ont, la formation. Maintenant, il y a beaucoup d'écoles qui ont un super niveau. Quand je vois les petites jeunes qui déboulent, je me sens pas de leur donner des conseils parce que franchement, il y a un super niveau. Et puis, c'est une génération qui est beaucoup plus ouverte qu'il y a plusieurs dizaines d'années. Hein. C'est une génération qui écoute de tout grâce à Internet. Voilà, moi j'ai l'impression d'être un vieux crouton en disant ça, mais moi quand j'étais gosse, j'allais acheter des disques et voilà, j'avais 15 disques à la maison et puis ça s'arrêtait là. Hein. C'était pré-Internet, donc je me fais pas de soucis avec la jeune génération qui a un super niveau puis qui est ouvert aussi, beaucoup plus ouvert sur plein de sortes de musique. Et donc si juste je devais donner un conseil, c'est d'être toujours curieux, d'écouter plein de trucs et... Et puis parfois de faire un effort, parce que par exemple, on parlait des musiques traditionnelles coréennes, c'est pas toujours facile à écouter, donc parfois, à la première écoute, c'est un peu rebutant. Bah, on fait un petit effort, 5 minutes, on écoute attentivement en essayant de comprendre ce qui se passe, et puis petit à petit, le truc, ça s'ouvre, hein, et on se met à aimer ça, et à découvrir des trésors. Faut un tout petit peu aller les chercher, quoi. Mais faut de la curiosité. Faut de la curiosité et aussi pas focaliser tout le temps sur la technique et la virtuosité quoi. La virtuosité en soi, ça a jamais servi à rien quoi.
On vient à l'instant d'écouter un fragment de l'introduction du morceau intitulé « Goodbye » tiré de l'album « Pechiban ». Encore merci à toi Étienne d'avoir répondu à mes questions et on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite en cette période difficile, tout particulièrement pour les artistes. Retrouvez toute la musique sur bandcamp.com, bandcamp.com pour acheter disques, vinyles, CD et tous les morceaux de « Pechiban » et « Akale Bube ». Je vous mets aussi le lien vers le site d'Étienne, etiennedelasayette.com, tout attaché. Voilà, vous avez tout pour continuer cette aventure musicale et je cède maintenant ma place à Jeanne et Julien qui partent pour la ville de Cheongju à un peu plus de 200 km de Séoul.
Vous êtes prêts pour la rubrique voyage ? Tant mieux, aujourd'hui, nous allons quitter Séoul pour vous emmener au sud-ouest de la Corée. Nous partons pour la province de Jeolla, et plus précisément dans sa capitale, Jeonju. Julien, tu as un lien particulier avec la ville, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Ma famille est originaire de Jeonju, et je ne compte plus le nombre de fois où je suis allé là-bas. Pour se rendre à Jeonju depuis Séoul, c'est très simple. Il est possible de prendre soit le bus express ou le train. Il existe une amplitude horaire de départ très importante, ce qui vous permet de planifier un départ presque à toute heure de la journée. Par exemple, il y a des départs de bus vers Jeonju quasiment toutes les 15 minutes.
Tu préfères prendre quel transport en général ?
Alors moi, c'est le bus express, parce que déjà, c'est plus économique que le KTX qui est le TGV coréen, oui, le même que chez nous, et que les bus de classe dite un peu supérieure sont vraiment confortables. Et puis, il y a la traditionnelle pause sur l'aire de repos, où je ne manque jamais d'acheter des Udukwaja. Oui, la route, ça creuse. En bus express, cela prend environ 2h45 pour vous rendre à Jeonju.
C'est vrai que les airs sont de véritables attractions en Corée. Donc oui, Jeonju, la capitale de la province de Jeolla, la ville la plus typiquement coréenne, a été classée par l'UNESCO en 2012 comme ville créative pour sa gastronomie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là-bas, on mange super bien. Jeonju est aussi connu comme le pays du pansori, qui est un art coréen du récit chanté, un peu comme l'opéra, et très mélancolique.
Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur son village traditionnel Hanok, qui se situe au cœur même de la ville, ainsi que le musée du Hanji. Le Hanji, qui est le papier traditionnel coréen. J'imagine que toi aussi, Jeanne, tu es allée de nombreuses fois là-bas. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus.
Oui, j'y suis allée une bonne dizaine de fois, je pense, et c'est toujours avec plaisir. Avec pas moins de 10 millions de visiteurs par an, le village Hanok est l'une des destinations touristiques phares en Corée du Sud. L'histoire du village n'est pas très ancienne, car elle remonte à un peu plus de 100 ans. Le village a commencé à être construit dans les années 1910, avant de vraiment se développer dans les années 1930 pour contrer l'expansion japonaise à Jeonju. Les habitants ont commencé à construire des maisons Hanok dans les districts actuels de Kyodong et Jeondong.
Les maisons traditionnelles à Jeonju sont de type kiwa-type, c'est-à-dire des maisons en toit de tuiles, ce qui impliquait des méthodes de construction beaucoup plus coûteuses. En effet, les maisons avaient généralement des toits de paille de riz à l'époque. Souvenez-vous, c'est le type de maison que l'on peut retrouver dans le village Hawae Haandong. Sinon, je vous invite à écouter l'épisode 3 du Corée Voyage Show.
C'est vrai qu'il faut écouter tous les épisodes, hein. Donc pour revenir à Jeonju, en 1978, pour protéger ce patrimoine architectural, les autorités ont décidé de nommer cette zone préservation historique. Comme il était interdit aux propriétaires des Hanok de les démolir ou les modifier, cette décision a malheureusement eu l'effet inverse. Elle n'a servi qu'à déclencher une période de déclin qui a duré presque 3 décennies. Les résidents ont petit à petit quitté le quartier pour laisser place à des artisans et artistes attirés par l'ambiance et les prix attractifs de Jeonju.
Mais un événement à la fin des années 90 va permettre une véritable régénération du quartier. Dans le but d'accueillir le mondial de foot 2002, celui-ci deviendra un des arguments dans le but de décrocher la nomination convoitée des matchs de la Coupe du Monde. À partir de ce moment, de nombreuses vieilles maisons ont été rénovées, les vieilles rues ont été réparées, de nouvelles installations ont été créées. On y retrouve entre autres des lieux d'exposition dédiés à la culture coréenne, comme le kimchi, l'opéra et la littérature, dans le but de promouvoir le patrimoine historique de Jeonju. Aujourd'hui, c'est environ 700 maisons à Hanok qui ornent le quartier, qui vous permettra une véritable immersion dans le passé. Et pour pousser l'expérience un peu plus loin, c'est aussi le meilleur endroit de Corée pour porter le hanbok, tout en visitant le village. Le hanbok qui est l'habit traditionnel coréen.
J'ajoute aussi que c'est l'occasion de tenter l'expérience de dormir dans une des nombreuses guesthouses Hanok. Vous saurez apprécier leur structure assez unique, avec leur charpente en bois et son revêtement de sol ondol.
Mais Jeonju est également connue pour être la maison du Hanji, le papier coréen. De nombreux textes historiques révèlent que la ville avait le plus grand nombre de fabricants de papier du pays, et que la plupart étaient de haute qualité. Et un autre endroit qui vaut également le coup d'œil, c'est le musée du Hanji à Jeonju. Alors Jeanne, le Hanji, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors le mot Hanji est composé de 2 syllabes qui viennent des Hanja, les caractères chinois, Han, la Corée, et Ji, le papier. Donc le Hanji, c'est le papier coréen tout simplement. C'est ce qu'on appelle communément du papier de riz. Cependant, ici, il n'est absolument pas fait à base de riz, du moins sa plante, mais plutôt de mûrier à papier. Pour les amateurs de botanique, et je sais qu'ils sont nombreux parmi vous et je les salue, le mûrier à papier est mieux connu sous le nom de Brussonesia papyrifera. Le hanji est un matériau incroyable. On s'en sert pour écrire et peindre, bien évidemment, mais aussi en tant que papier peint, lino ou encore comme tissu. Et aujourd'hui, pour ajouter une petite touche de modernité, on en fait également de la vaisselle, des habits, des chaussures et même des baffles audio développés par Hyundai. Selon la façon dont il est travaillé, il est très résistant et absorbant.
Mais pour revenir au côté un peu plus historique, le hanji possède des milliers d'années d'histoire. Et sur la base de la littérature du passé, depuis la dynastie Goryeo, le Jeonju Hanji était utilisé pour rédiger des documents diplomatiques et royaux.
Les annales de la dynastie Joseon, qui relatent jour après jour la vie des rois, étaient d'ailleurs conservées à Jeonju. En effet, la ville avait une valeur spirituelle très importante, puisqu'elle est le berceau de la famille royale coréenne. D'ailleurs, si vous rencontrez un Coréen dont le nom de famille est I, Lee, et qu'il vient de Jeonju, il fait peut-être partie de la famille royale.
Très belle anecdote, ma chère Jeanne.
Donc pour honorer l'esprit du roi Taejo, fondateur de la dynastie Joseon, le sanctuaire Gyeonggi-jeon fut construit en 1410. Il abrite encore à ce jour le dernier portrait du roi. Le côté historique de Jeonju a donc quand même été préservé. En plus du sanctuaire, vous pourrez visiter l'école confucéenne, la dernière porte restante de la forteresse qui entourait la ville et l'église catholique. Une bonne journée qui mêle tradition et modernité.
On se quitte bien évidemment en musique avec le nouveau morceau de Pei Shibang. J'en profite pour remercier bien chaleureusement tout le monde, Monsieur Étienne de la Sayette encore une fois, Jeanne et Julien bien sûr, et vous, chères auditrices et auditeurs qui restez fidèles au poste. Prenez bien soin de vous et à très vite. 다음 주 뵙겠습니다.
Come on.